Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la diplomatie humanitaire et à la gestion des crises dans le monde. Il y a quelques jours, s'est tenue à Paris, dans l'enceinte de l'UNESCO, une conférence internationale sur ce thème, organisée par l'Ordre de Malte et la Marine nationale française. Le sujet est éminemment d'actualité, tant les crises se multiplient. Ce qui se passe dans le bassin méditerranéen nous fait presque oublier le retrait d'Irak, l'intervention en Afghanistan, l'évolution au Soudan, le terrorisme, les inondations au Pakistan, en Australie, les ouragans, également le tremblement d'il y a un an en Haïti. Quelle est la place aujourd'hui de l'humanitaire dans le modelage diplomatique et dans un contexte de recul des sujets politiques à la faveur des questions économiques? Quelles sont les interrogations de l'humanitaire alors que les acteurs ont tendance à se multiplier et se diversifier, faisant perdre à certains de la visibilité et ajoutant peut-être de la confusion là où plus de clarté ferait sans doute gagner en efficacité? Plus d'un an après le tremblement de terre en Haïti, on sent un malaise certain face à la situation qui prévaut dans l'île. L'heure d'une réflexion en profondeur a peut-être sonné. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alain Boinet, directeur et fondateur de l'organisation humanitaire Solidarité Internationale, co-auteur d'un rapport intitulé « Analyse et propositions sur l'action humanitaire dans les situations de crise et post-crise ». Bonjour Alain Boinet.
Bonjour Marie-France Chatin.
Philippe Riefmann, professeur et chercheur associé au département de sciences politiques de la Sorbonne et au Centre européen de sociologie de sciences politiques, auteur de Les ONG, paru aux éditions La Découverte. Bonjour Philippe Riefmann.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et Xavier Guillou, directeur de XAG Conseil, société spécialisée dans la prévention des risques, le pilotage des crises et l'aide à la décision stratégique. Bonjour Xavier Guillou.
Bonjour.
Le premier anniversaire, il y a quelques semaines, du tremblement de terre en Haïti, j'ai senti un profond malaise autour de l'ensemble de la situation haïtienne. On sent beaucoup de non-dits. Je sens que, et je sais que je démarre cette émission avec une question difficile. Alain Boinet, Xavier Guillou.
Oh, je ne sais pas si elle est difficile. Je pense que, d'abord, ce contexte, enfin, Alain pourrait en parler encore mieux que moi sur le plan opérationnel, mais nous assistons à une affaire qui a été très très fortement médiatisée, sur laquelle on a laissé espérer énormément de choses, de résultats. Il y a beaucoup d'attentes. En plus de ça, les médias se sont donnés comme point de rendez-vous l'anniversaire quoi, de la première année, comme on l'a fait pour le tsunami, comme on l'a fait pour d'autres crises. Bon, en plus de ça, on est dans une zone quand même, une zone d'influence directe des États-Unis. On est en pleine compétition entre les Chinois et les Américains sur la zone. Donc on a affaire en même temps à des grands jeux qui se déroulent sur un petit espace où on a une population qui est totalement sinistrée, avec, je dirais, une situation de défaillance de l'État qui est totale. Donc on a la pire des situations sur le plan humanitaire, opérationnel, avec en même temps un niveau de confrontation sur des grands jeux qui sont géopolitiques, qui sont, comme on n'a pas connu jusqu'à présent, quoi, et qui sont assez nouveaux. Donc on a à la fois à satisfaire des problèmes très basiques vis-à-vis des populations, et en même temps, on est en train de découvrir de nouvelles logiques de confrontation et de compétition entre les nations.
Alain Boinet.
Et en fait, quand on a effectivement fêté le premier anniversaire de ce terrible tremblement de terre, je crois qu'il faut rappeler tout de même qu'il y a eu un tremblement de terre, un cyclone, et qu'au moment où on fêtait le premier anniversaire, on était plein dans l'épidémie de choléra. Donc évidemment, ça a de quoi quand même affecter l'ambiance, si je puis dire, sans parler de l'action sur le terrain. En plus du choléra, et ça n'a rien à voir évidemment, on était quand même en plein dans les suites immédiates des élections, contesté avec les fraudes, les partisans de Michel Martelly furieux que leur candidat soit en troisième position alors qu'ils pensent qu'il est en seconde position devant Jules Célestin, le candidat de René Préval, sont descendus dans la rue, ont fait des barrages. Et donc ça, bien sûr, posait des problèmes, à la fois au niveau de l'ambiance, mais aussi au niveau de l'action humanitaire. C'est vrai que la coordination à la fois fonctionne et connaît des difficultés. Je crois aussi, comme on l'a déjà souligné, qu'on a un peu trop rapidement, dans les premiers mois, suivant le tremblement de terre, pensé que l'urgence était terminée, qu'il fallait passer à la reconstruction. Je pense qu'on est revenu aux réalités, tout simplement. Néanmoins, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Là, je prends quelques chiffres, hein, qui sont ceux d'ailleurs de Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, qui dit que 1 500 000 Haïtiens ont pu accéder à un abri, même si beaucoup restent encore dans les camps, que chaque jour 5 millions de litres d'eau sont distribués, et que plus d'un million d'enfants reçoivent des repas dans les écoles. Donc, oui, il y a des problèmes, on n'est pas sorti d'Haïti, mais quand même, beaucoup de choses ont été faites et sont faites. Ce qu'il faut, c'est que ça s'améliore et qu'on voit le bout du tunnel.
Philippe Riefmann.
Je crois qu'Alain Poinet a excellemment dit, en parlant des chiffres, qu'il est incontestable qu'un travail considérable a été fait et qu'il se poursuit. Il me semble qu'il y a plusieurs niveaux. Au niveau des acteurs humanitaires de terrain, en dépit des difficultés de coordination, d'un certain nombre de problèmes, dans l'ensemble, les responsabilités sont assumées, les tâches sont accomplies, et effectivement, les sinistrés directs, notamment ceux qui sont dans les camps déplacés, sont pris en charge. D'ailleurs, on a constaté une chose qui est assez intéressante, même si c'est dans un contexte dramatique, c'est que dans les camps déplacés, c'est là où l'épidémie de choléra est le moins frappée, parce que effectivement, il y a un environnement en termes de santé, en termes d'accès à l'eau, bien meilleur que par exemple par Port-au-Prince, Cité Soleil, qui est le plus grand bidonville de Port-au-Prince, qui n'avait pas été touché par le tremblement de terre, et où là, les conditions sanitaires sont tout à fait catastrophiques, et où l'épidémie se propage finalement plus facilement. Par contre, sur l'autre versant, ce qu'on peut constater, c'est que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, est confrontée en Haïti, outre les contextes qui ont été évoqués, à des difficultés incontestables en matière de reconstruction et de fonctionnement. La fameuse commission intérimaire fonctionne mal. Il n'y a pas un seul représentant des Nations Unies, par exemple, mais plusieurs. Il y a un manque de coordination à ce niveau-là. Un certain nombre d'États, visiblement, n'ont pas tenu les engagements qu'ils avaient pris lors des conférences internationales en matière de déblocage des fonds. Ils avancent la raison, qui peut être considérée comme légitime, que précisément il n'y a pas de véritable structure qui a été mise en place, il y a des difficultés. Et puis, comme le disait Xavier Quillou, le problème de la gouvernance et le problème de l'État haïtien demeure absolument entier un an après le tremblement de terre, puisque le gouvernement qui était alors en place manquait déjà de légitimité. Avec le contexte électoral, cette légitimité a quasiment disparu. Donc il y a une difficulté d'avoir un interlocuteur haïtien, une difficulté en termes d'administration haïtienne qui était déjà extrêmement faible et qui n'a quasiment pas été reconstruite. Et là, incontestablement, ça patine. Et on voit très bien là, et je terminerai là-dessus, les limites finalement de l'action humanitaire dans ce type de circonstances. Elle peut effectivement apporter une assistance, aider à soigner, à sauver des vies, à constituer une sorte, si vous voulez aussi, de substitut à des services sociaux, à des services publics, mais elle ne peut pas apporter, s'il n'y a pas, je dirais, un cadre général qui fonctionne en termes notamment de stratégie de reconstruction, on ne peut pas lui demander plus que ce qu'elle peut apporter de ce point de vue. Elle ne peut guère aller plus loin. Elle peut, par exemple, travailler dans les questions de reconstruction, voire on travaille beaucoup en ce moment en Haïti sur les questions d'abri, mais ce n'est pas elle qui va s'occuper des questions cadastrales et des questions foncières. Si elles ne sont pas prises en charge par le gouvernement haïtien et par la commission intérimaire, on ne peut pas demander aux organisations humanitaires de s'en occuper, ce n'est pas leur rôle.
Alors, les limites de l'action humanitaire, on l'a compris, ce que ça veut dire. Alors, le cas d'Haïti est un cas un peu spécial, mais c'est vrai qu'il rassemble sur son territoire énormément de choses. C'est là que sont confrontées finalement les institutions internationales, les grandes institutions internationales, le rapport entre pays dits développés et puis les autres. Est-ce que, par rapport à tout cela, on peut dire aujourd'hui que l'humanitaire est au bout de quelque chose, Xavier Guillou?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'humanitaire est au bout. Je pense que l'humanitaire n'en est qu'au commencement. Quand on regarde des grands éléments dimensionnants de la vie internationale, que ce soit la démographie, l'immigration de population, l'évolution des catastrophes naturelles, enfin, on a quasiment doublé le niveau de catastrophes naturelles en l'espace de 10 ans, avec des populations qui sont essentiellement localisées sur les littoraux à très grand risque. Le cas de d'Haïti, puisque vous le citiez, est assez emblématique, puisque à la fois il réunit les trois grands sujets qui préoccupent l'humanitaire, c'est-à-dire à la fois les conflits, puisqu'on avait quand même une espèce de forme de guerre civile à l'intérieur de l'île, hein, avec des problèmes de sécurité énormes, les désastres naturels donc que j'évoquais, qui aujourd'hui quand même mobilisent beaucoup le monde non gouvernemental et même les organisations multilatérales et d'assistance aux populations. Et puis troisièmement, la question du développement, parce que là tout le monde est sur le plan médiatique axé dès qu'il y a une catastrophe un cyclone ou une guerre un petit peu voyante, tout le monde est mobilisé là-dessus. Mais les grands problèmes de développement avec la malnutrition, enfin les grands problèmes d'accès aux ressources hydriques, à la nourriture, on voit bien avec ce qui se passe en Méditerranée, etc. Enfin, l'humanitaire, il est sur ces trois grands sujets aujourd'hui, hein, et il se trouve face à des États défaillants, mais il se retrouve aussi face à des défaillances d'États, parce que nos propres États occidentaux, qui ont quand même des moyens considérables, nos économies qui ont des moyens considérables, sont pas toujours forcément cohérents ou intelligents par rapport à ces situations que nous avons aussi à assumer en termes de responsabilité morale, voire éthique, vis-à-vis des populations internationales. Alors là-dessus, on pourrait beaucoup débattre, hein, sur le problème de la morale et de l'éthique. Est-ce que l'Occident a à s'occuper des pays du Sud ? Est-ce que l'Occident a à intervenir sur des conflits, à faire de l'ingérence, etc. Bon. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, 80%, 90% de l'aide internationale ou de l'efficience qui est apportée vis-à-vis de toutes ces populations est apportée par l'Occident. Non, ça, c'est un fait. Et je dirais, la philosophie humanitaire est en grande partie portée par la philosophie occidentale, avec tout ce que ça peut comporter en termes de compassion, de regard vers les autres. Alors, certains diront aussi d'altruisme, égoïsme, etc., parce qu'il peut y avoir des intérêts qui sont cachés, etc. Une chose est certaine, c'est que c'est l'Occident qui porte cette... Et historiquement, depuis très longtemps.
Hein, oui, historiquement, depuis vous très insistez longtemps. Beaucoup, vous avez Guillaume, sur ce rôle de l'Occident. Est-ce que c'est justement parce que il est pointer du doigt, montrer du doigt l'Occident à vouloir tout gérer et faire les choses à sa manière? C'est un grand débat sur la question de l'humanitaire. Je vous passe la parole, Alain Bonnet.
Sur la question, et puis après on peut revenir sur cette problématique là, vraiment stratégique si je puis dire, sur l'humanitaire est-il au bout de quelque chose? Moi, ce que je crois, au contraire, et à partir des grands périls ou des grands risques que Xavier Villiou vient d'évoquer, je crois au contraire que l'humanitaire, ce qui caractérise l'humanitaire depuis quelques décennies, c'est son développement, et je pense qu'il va encore considérablement se développer, qu'il va considérablement se diversifier. C'est d'ailleurs un processus qui est clair, qui est en cours. La question, c'est voilà, se développer, se diversifier, comment, pourquoi? Après, sur ce qu'évoquait Philippe Riefmann, les limites de l'action humanitaire, et Philippe a raison, évidemment, les limites de l'humanité en Haïti, c'est les limites de partenariat avec les autorités haïtiennes, qu'elles soient politiques ou administratives, qui sont trop peu existantes, trop peu légitimes. Et pour nous, humanitaires en Haïti, le risque majeur aujourd'hui, c'est qu'une crise humanitaire durable vienne s'ajouter aux calamités subies en 2010. On a bien vu au moment des élections et de la crise de choléra que les checkpoints à Port-au-Prince nous ont empêchés d'accéder sur les sites et que le pic de choléra a immédiatement progressé. Il faut des institutions fortes, stables et légitimes. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire de s'installer ou dans la paralysie ou qu'on retombe dans la violence. Voilà, la paralysie et la violence, pour nous, c'est les deux risques majeurs. Mais l'aide humanitaire, précisément, est faite pour agir aussi efficacement que possible dans des situations de paralysie et de violence.
Alain Bonnet,
donc c'est toute notre raison d'être.
Haïti est sous perfusion depuis 20 ans.
Oui, mais il y a d'autres pays. Hein.
Vous savez, Guillaume,
vous regardez la Yougoslavie aujourd'hui, enfin, regardez la problématique du Liban, regardez beaucoup de pays d'Afrique. Enfin, nous sommes rentrés dans des cinétiques qui sont fortement médiatisées, où tout le monde attend une solution quasiment immédiate. Hein, comme dans un bon film américain, en 40 minutes, on a tout réglé. Quoi, hein.
C'est quand même bien aussi que ce soit un peu médiatisé, parce que sinon,
oui,
ça tombe dans l'oubli.
Je crois qu'il ne faut pas raconter d'histoire ni aux auditeurs, ni aux populations. Enfin, dès qu'on rentre dans une crise majeure, on s'en prend pour plusieurs décennies aujourd'hui. Hein. Bon, c'est vrai que l'approche humanitaire, et Alain l'a très bien évoqué, est souvent perçue sous l'angle de l'action d'urgence. Mais derrière l'action d'urgence, vous avez la reconstruction. La reconstruction, c'est très très long, très très long. Et puis après, vous avez les logiques de développement. Enfin bon, regardez déjà simplement, quand nous sommes sortis des grandes guerres mondiales, il nous a fallu quasiment 20 à 30 ans pour arriver à reconstruire la France ou l'Europe. Quand on prend par exemple l'affaire du Liban, qui est un pays que je connais par cœur, hein, je veux dire... derrière la guerre qu'on a connue entre 75 et les années 90, ben on a mis quasiment plus de 15 ans pour arriver à régler ces problèmes de gouvernance locale, à asseoir des stratégies de reconstruction. Puis après, vous avez le problème physique. Enfin, la maîtrise de l'espace-temps, elle est physique. C'est-à-dire, faut déblayer, faut enlever les gravats, ce que Philippe évoquait, c'est-à-dire le problème du cadastre, savoir à qui appartient telle ou telle maison, réorganiser l'espace, etc., avec toutes les confrontations de jeux, de clans, etc., qui peuvent se produire dans ce domaine-là, et asseoir une gouvernance locale dans une situation qui est complètement explosée, je peux vous garantir que c'est pas un exercice facile. C'est un exercice qui est peut-être le plus difficile qu'on puisse connaître en matière de diplomatie. Et c'est là où le monde humanitaire, aujourd'hui, amène une certaine, à la fois, prise de conscience et fluidité. C'est tout l'intérêt du colloque là qu'on a eu jeudi et vendredi dernier, puisqu'on a parlé de diplomatie humanitaire. Ce qui est un terme qui est assez nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, l'humanitaire, de par son impartialité, sa neutralité, son indépendance, a une capacité de questionnement, d'interpellation avec les médias ou en direct auprès des populations au travers de ses actions. Il a une capacité d'interpellation pour que les différents acteurs revoient un peu leur copie sur leur façon de faire, leur mode d'action et sur toutes ces questions de coopération, collaboration, intégration, parce qu'en fait, aujourd'hui, des modes d'action, il y en a un paquet. Hein. Donc, quand on regarde entre les clusters de l'ONU, l'approche globale de l'Union européenne, le comprehensive approach de l'OTAN, etc. Enfin, chacun a son concept, et on voit bien que bon, tous les concepts sont vertueux, mais que sur le terrain, ça fonctionne pas forcément, parce que sur le terrain, après, on se trouve confronté aux problèmes vitaux des populations, et c'est là où l'humanitaire, lui, qui est très très proche des populations, très très proche des cultures, très très proche de tout ce qui fait la granularité de ce terrain, a cette capacité, je dirais, de faire bouger les lignes auprès des différents acteurs et de les obliger à revoir un peu leur copie. On parlait tout à l'heure de l'approche occidentale, ce qui est ressorti du colloque, c'est que, je dirais, il y a une crise dans la crise, hein, ou dans les crises qu'on traverse. Il y a une crise de modèle. C'est-à-dire que le modèle que nous avons projeté pendant quasiment plus d'un siècle, la colonisation, la post-colonisation, etc., mais après les approches, je dirais, vertueuses du non-gouvernemental qui assiste le gouvernemental d'une certaine manière ou qui donne une main complémentaire au gouvernemental, eh bien, on se rend bien compte que sur le terrain, l'obstacle, c'est la confrontation avec les cultures, les religions, les modes de représentation que les peuples ont. Et c'est là où les humanitaires ont une avance aujourd'hui, au travers de leur pratique depuis 30 ans du terrain, sur ces grandes organisations, aussi bien militaires, diplomatiques que les organisations internationales, parce qu'ils sont moins dans le processus, l'idéologie du processus, et beaucoup plus dans une certaine recherche d'efficience et, je dirais, de résultats. C'est paradoxal, mais on pourrait penser que ce sont les organisations régaliennes ou internationales qui sont dans l'efficacité. Et je dirais, ça a même été un mot qui a été utilisé dans le colloque, y compris par certains grands militaires. Parfois, les remèdes sont pires que le mal. Hein. Donc, et souvent, les remèdes qu'on a mis en place en termes de processus ou en termes d'idéologie, de concept de nos grands pays occidentaux ont généré beaucoup plus de dégâts et ont même installé beaucoup plus dans la durabilité certaines crises qu'elles ont permis de les solutionner.
On reviendra sur la question de la crise de modèle dans la deuxième partie de l'émission. Pour terminer cette première partie, est-ce qu'on peut dire que finalement la diversité des acteurs est un facteur de désorganisation ? Bref, il y a trop de monde sur le terrain, Philippe Riefmann ?
Je ne suis pas sûr que ce soit un facteur de désorganisation. En tout cas, c'est incontestablement aujourd'hui une réalité concrète. Il y a toujours eu, effectivement, en matière de sommité, notamment de catastrophe, une grande diversité d'acteurs. Simplement aujourd'hui, je trouve que la question que vous posiez tout à l'heure, à mon sens, appelle effectivement toute une série d'interrogations. Est-ce qu'on est à la fin de quelque chose ? Moi, je dirais probablement que oui, mais on est au commencement d'autre chose.
Et on ne sait pas quoi ?
On ne sait pas exactement quoi. Bon, on est au début d'une nouvelle décennie, ce n'est pas simplement pour marquer cela en termes chronologiques, mais effectivement, un certain nombre de modes opératoires, de contextes, de l'action militaire, d'ailleurs, ils évoluent constamment, mais là, ils sont confrontés effectivement à de nouveaux défis, à de nouveaux obstacles. C'est qui vous le rappelait tout à l'heure, on est tout de même dans un monde de plus en plus urbanisé, de plus en plus peuplé, et avec des catastrophes naturelles qui, quand elles frappent des populations vulnérables, on l'a très bien vu en Haïti quelques semaines plus tard avec le tremblement de terre au Chili, État beaucoup plus structuré, qui a effectivement l'habitude de ce type de questions avec une administration qui fonctionne, le nombre de victimes est bien moindre, et les dégâts matériels aussi. Donc on est tout simplement au commencement de quelque chose d'autre.
On y reviendra, Philippe Riefmann, dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à la diplomatie humanitaire et à la gestion des crises. Nous retrouvons nos invités Xavier Guillou, Alain Boinet et Philippe Riefmann dans quelques instants. À tout de suite.